Bonjour à ceux et celles que je n'ai pas salués. Notre texte d'aujourd'hui est formidable. Dans ce passage, nous voyons le serviteur de l'Éternel se manifester comme quelqu'un de très humble. J'allais même dire très timide. Et pourtant, nous voyons ce passage que beaucoup ont cité. Il ne criera point, il ne s'élèvera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore ou le lumignon qui fume. Il annoncera la justice selon la vérité. Et l'autre connotation qui suit aussitôt, c'est qu'il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Douceur, mais force en même temps. Vendredi dernier, nous avons abordé, Adrien nous a fait aborder le thème de questions-réponses. Et la question était, y a-t-il plusieurs sortes de foi ? Et dans la présentation, dans les discussions, Adrien, nous avons pu nous dire que déjà il y a la foi qui sauve et la foi qui ne sauve pas. Et ça a été développé à travers un passage de Jacques. Mais nous avons constaté aussi que dans la partie foi qui ne sauve pas, il y a toutes sortes de facettes de foi, multiples, j'allais dire, de foi. De même dans la partie de la foi qui sauve. Dans notre réflexion ce matin, nous abordons ce passage dans Luc. Idriss, tout à l'heure, nous a lu un passage parallèle dans Matthieu. Et ce passage dans Matthieu 26, il est écrit au verset 31, « Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et nous voyons la suite, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et puis, nous voyons que Pierre a encore repris parole et dit, « Non, 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 je ne céderai pas, je ne lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et nous savons tous que Pierre a renié le Seigneur, alors qu'il était quelqu'un de plein de foi envers son Seigneur. Et il a manifesté cet homme qui avait une foi sincère, mais qui était en berne. Il était en situation d'une panne de sa foi envers le Seigneur. Et vous vous rappelez de l'histoire. Oui, tu étais avec lui quand il était autour du feu, alors que Jésus était avec le grand prêtre. Et Pierre qui répond, non, je ne le connais pas. Une foi qui sauve, mais qui peut être en berne et qui peut être en état de panne. Ça ne vous est jamais arrivé. Hein, de pédaler dans la choucroute concernant votre foi dans le Seigneur. Et regardez maintenant, braquez les yeux sur le Seigneur Jésus. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Ça vous est jamais arrivé de suivre quelqu'un pour former la personne, pour lui donner un enseignement ou tout simplement pour l'amener à prendre en main quelque chose. Et ça ne marche pas et vous vous cassez la tête. Et puis je dis, tant pis. Hein. Et Jésus, regardons encore notre texte dans Ésaïe. Il ne se découragera pas et ne se relâchera pas. Le Seigneur Jésus. Alors, ce matin, nous allons voir un peu cette histoire de Pierre et l'attitude de notre Seigneur. Et nous allons dans le texte de Luc au chapitre 22, versets 31 et 32. Luc 22, 31, 32. Le Seigneur dit... Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. J'ai prié pour toi. Parce que Satan vous a réclamé, toi, Simon, et les autres. Satan voulait cribler le froment, le blé, ainsi de suite, c'est séparer les grains de la paille. Satan vous a réclamé, et moi j'ai prié pour vous. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Il ne se découragera point. Il ne relâchera point. Jésus dit clairement que Pierre avait la foi en lui. Jésus dit clairement que la foi de Pierre avait besoin d'être secourue de l'intercession du Seigneur. Pierre allait être victime d'une attaque, pas une cyberattaque comme on entend souvent maintenant, mais une attaque spirituelle. Et il aura une panne de sa foi. Et Jésus le dit par avance. Et il lui dit, mais tu t'en remettras parce que j'ai prié pour toi. Il dit, quand tu seras revenu. Il y a ce temps de retour que le Seigneur prévoit, que le Seigneur attend. Et quand il sera revenu, il n'y aura pas de temps de repos sur le canapé. Il dit, tu affermiras tes frères, car eux aussi auront leur foi déclinée. Comme beaucoup de chrétiens, comme tous les chrétiens, chaque chrétien peut passer dans ce passage à vide. Et tout cela, Jésus le dit à Pierre en présence des autres. On a l'impression que c'est Pierre qui est visé, mais les autres aussi sont concernés. Et à travers les autres, tous les chrétiens, les vrais chrétiens qui ont la foi qui sauve. Oui, soyons réalistes, une crise temporaire de la foi existe dans la vie de chaque chrétien. Afin que ta foi ne défaille point. Défaillir veut dire perdre momentanément ses forces physiques et morales. Dans Jean 17, verset 15, allons-y. Jean 17, verset 15, Jésus dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jésus prie pour ses disciples qu'ils soient préservés du mal ou du malin. Et vous savez tous, quand Jésus demande, ou plutôt quand Jésus enseigne à ses disciples le Notre Père, qu'est-ce qu'il dit dans cette prière? Il dit, quand vous priez, Notre Père, dites aussi, délivre-nous du malin. Il y a un temps où nous avons besoin d'être préservés, délivrés de l'attaque de l'ennemi. Une crise de la foi ou une panne de la foi n'est pas la perte de la foi, malgré qu'elle peut être perçue comme telle par un sentiment de sécheresse spirituel ou par un sentiment d'abandon. Le malin a toujours voulu faire croire aux disciples du Seigneur qu'ils sont perdus, qu'ils sont séparés du Seigneur, qu'ils n'ont plus de chance de retour. Son rôle, c'est de mentir, troubler, amener à ce que le disciple de Jésus se détache de son maître, n'ayant plus de communion avec son maître, reste dans son coin. C'est d'ailleurs, si nous revenons dans l'objectif cité par Jésus, l'ennemi veut cribler les disciples de Jésus comme on crible le froment, séparé. Dans Job, nous voyons l'action de l'ennemi. Job, chapitre 1er, Job, chapitre 1er, les versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains. » Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends la main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Séparer le serviteur de son Seigneur. C'est l'objectif de l'ennemi, Satan, le diable. C'est sa nature. Il est menteur depuis le début. Dans Jean 8, 44, nous voyons encore cette facette. L'évangile de Jean au chapitre 8, verset 44. En parlant de ceux qui s'opposent à lui, Jésus dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jésus dit à Pierre, l'ennemi t'a réclamé, vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous. Il devance l'attaque. Et il fait en sorte que la communion puisse être rétablie. J'ai d'autres passages, mais préférable, on va passer par la suite. Vous verrez les autres passages sur le résumé. Il y a Jean 10, que beaucoup connaissent, hein, « Nul ne ravira de ma main hein, », dit Jésus à ses disciples. Jésus intercède et va de l'avant. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Jésus révèle à ses disciples l'origine du danger, Satan lui-même. Pierre s'en souvient. Et de quelle manière il s'en souvient ? Regardez dans 1 Pierre au chapitre 5. Je sais que c'est un passage aussi que nous trouvons dans Jacques, mais dans 1 Pierre. Au chapitre 5, verset 8, l'idée « Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchez qui il dévorera. Résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Il ne pense pas que c'était une expérience personnelle, mais aussi l'expérience de chaque chrétien. Mais bien sûr, c'est bien beau de parler de Satan, de son action, de ses mensonges, ses tromperies. Mais n'oublions pas que le chrétien a sa part de responsabilité quand il ouvre une porte à Satan. Par exemple, pour Pierre et les autres ici, c'est leur prétention de venir en aide au Seigneur. Même si l'ennemi, l'accusateur des frères, comme on le découvre dans Apocalypse 12:10, même cet ennemi veut absolument faire perdre la foi et le salut aux disciples, le Seigneur Jésus n'est pas de cet avis. Il devance l'événement, agit en faveur de ses disciples, et il s'engage à les protéger. Nul ne les ravira de ma main. Dans 1 Corinthiens 10, 13, il est dit, concernant la tentation, surtout la deuxième partie. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Jésus s'est engagé et il tient parole. Il ne se découragera pas. J'ai prié pour toi. Il agit. Il prie. Il le dit à ses bien-aimés. Il ne le cache pas. Face aux attaques de l'ennemi, le Seigneur veut que ses disciples réalisent que leur maître s'occupe toujours d'eux. Il intercède. Nous avons un avocat, dit l'épître de Jean. Un avocat, un défenseur, celui qui rétablit la communion avec le Père. Ce n'est pas parce qu'il est au ciel qu'il n'intercède pas. Ce n'est pas loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. J'ai prié pour toi. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Avec le Seigneur, le retour est non seulement possible, mais attendu. Vous vous rappelez de l'histoire de l'enfant prodigue, du fils prodigue, Luc au chapitre 15. Verset 20, verset 21. On peut lire à partir du verset 18 ou non verset 17 même. Étant entré en lui-même, il dit, donc le fils, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le père l'attendait. Le retour à Jésus, si nous passons par une panne de foi, un moment où nous ne voyons plus clair, un moment où nous sommes abattus, un moment où nous avons péché, et que ce péché nous a entraînés dans une forme de dégradation morale, sécheresse spirituelle, eh bien, sachez que le Seigneur n'est pas ignorant de la situation. Il intercède et il attend ton retour. L'enfant de Dieu retrouve sa place. Et le Père lui exprime sa confiance en l'investissant à nouveau et aussitôt dans ses projets. Et un des plus grands projets qu'il nous confie, c'est d'aller s'occuper de ce « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, affermis tes frères. » Ceci me fait rappeler l'histoire de Barnabas, celui qui était compagnon de l'œuvre de Paul. C'est lui qui a pris Paul qui s'est converti, mais les autres disciples ont rejeté, ou plutôt ont craint, et qui l'a présenté. Il a su faire le pont, c'était l'homme de la situation pour la réconciliation. Affermis tes frères. Le Seigneur Jésus, dans Ésaïe 42, nous dit que il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il ne se découragera point. Nous devons en être conscients, même si là, quelque part dans nous, au moment où nous sommes au fond du trou, nous ne le réalisons pas toujours. Il y a donc besoin d'un sursaut de notre part. Un moment où nous nous secouons un peu. Donc soyons réalistes. Sommes-nous en train de vivre une panne de la foi? Cela n'arrive pas toujours aux autres. Le Seigneur le sait. Il a déjà prié pour vous, pour toi, pour moi. Nous avons lu tout à l'heure Jean 17. Il n'attend que ton retour, mon retour, comme il l'a fait pour Pierre. Nous sommes donc ce matin éclairés par l'expérience de Pierre Et notre regard se porte sur le Seigneur pour mieux le connaître. Conscient de, cette situation de Pierre, mais conscient aussi de du cœur du Seigneur, je peux prendre une position de ne plus me laisser facilement tromper par l'ennemi quand le découragement arrive. Quelles sont ces tromperies ? Ton Seigneur t'a laissé tomber, tu n'es plus digne d'être chrétien. Tu ne peux plus témoigner de Jésus, ni servir Dieu, ni aider les autres en son nom. Éloigne-toi de ton église, de tes frères, reste à la maison. Tu as la télé pour suivre les cultes ou la messe. Au contraire, le fils prodigue s'est levé. Nous devons nous lever au plus vite et dire comme ce fils prodigue, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et nous pouvons poursuivre notre prière, comme dit David dans le psaume 51, « Purifie-moi de mon péché. » Et attendons-nous à jouir à nouveau de la fête dans la maison du Père, c'est-à-dire la communion rétablie avec Dieu. Donc nous avons ce matin les yeux braqués bien sûr sur l'expérience de Pierre, mais surtout sur ce serviteur de l'Éternel qui n'éteint pas le lumignon qui fume encore, mais qui va jusqu'au bout, qui ne se décourage pas, mais qui va jusqu'au bout. Ce qu'il a commencé en vous, dit la parole de Dieu, il l'accomplira. Et je m'arrête là. Prions. Sois béni, Seigneur Dieu, de cette histoire que tu as laissée dans ta parole. Histoire vraie. Histoire d'un homme qui s'engage vis-à-vis de toi, mais qui, à un moment donné, se décourage, te renie même. Et toi, tu l'as préparé pour revenir. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour cela. Merci aussi pour la présentation de notre Seigneur dans ce texte d'Ésaïe 42. Et nous voulons te louer et t'adorer pour cela.